de cette vaste enquête à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
The most exciting blues style singer to come along in years. This is Barbara Dane and Old Fashioned Love.
I've got that old fashioned love in my heart. And there it shall always remain.
Now, our objective was not money. Our objective was culture. Moving culture from one to another to another.
I'm on my way now.
The blues come so many different ways until it's kind of hard to explain.
But a single girl, oh, a single girl, goes dressed all so fine.
You'll find the voices, the thoughts, the fears, the hopes, the dreams, all of that.
Oh, I am a weary and a long. Some traveler, I've been a traveling on.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Well, you got to read.
You got to read.
Just what you sow.
Just what you sow.
Boy, you got to read.
You got to read.
Just what you sow.
Just what you sow.
Bonjour et bienvenue dans une émission libre de tous les récits, de tous les portraits. Une heure de radio sur la musique en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Elle s'appelle Barbara Dane. Si vous avez plus de 60 ans, que vous êtes amatrice, amateur de jazz ou de blues, vous connaissez peut-être la voix, le visage hyper sensuel de celle qui, dans les années 60, fut une femme rousse et incendiaire, qui chantait notamment à la télévision américaine avec Louis Armstrong, Muddy Waters ou encore les musiciens de Dizzy Gillespie. Les baby boomers qui ont participé au mouvement hippie s'en rappellent peut-être aussi comme une chanteuse de folk un peu plus âgée que les Bob Dylan et John Baez qui ont leadé ce mouvement et qui chantaient sur les scènes américaines dans les plus grands événements contre la guerre du Vietnam, alpaguant la foule, hurlant qu'elle déteste le capitalisme. Parfois, même, ceux qui connaissent l'une ou l'autre de ces deux femmes ne savent pas qu'elle est la même personne, mais de manière générale, on l'avait presque oubliée aux États-Unis lorsqu'on a appris en cette fin d'année 2024 qu'elle venait de s'éteindre à plus de 90 ans. En tout cas, on l'avait moins en tête, évidemment, que tous les collaborateurs ou les gens qu'elle a inspirés, dont je viens de citer les noms, et qui sont célébrés en permanence. Et puis, le fait qu'elle s'éteigne à quelques jours de l'immense Quincy Jones a encore un peu voilé l'existence complètement dingue de cette femme. En France, carrément, on ne la connaît quasiment pas. Sa page Wikipédia fait à peine 2 lignes. Et pourtant, nous avions envie de réparer en cette fin d'année une injustice qui nous paraît atroce. Car Barbara Dane, que vous entendez sous ma voix, est proprement à la fois une musicienne et une figure assez exceptionnelle. Et si vous savez qu'on n'est pas avare de superlatifs dans cette émission, cette fois-ci, on pèse réellement nos mots. Jeune femme blanche qui est née dans une Amérique complètement ségrégationniste et raciste, elle se passionne pour le blues et semble née révoltée. Elle va démarrer une carrière de jazzwoman dans les années 60 et enchanter la scène jazz avec sa voix d'alto à 24 carats, comme le dit alors la presse. Obsédée par le blues, celle qu'on surnomme la Bessie Smith Blanche va être la première femme à ouvrir un nightclub à San Francisco pour faire vivre et rendre hommage aux plus grands blueswoman et bluesmen. Elle est aussi la première artiste américaine à se produire à Cuba, qui vient d'entrer dans un moment révolutionnaire. Profondément engagée pour un monde sans frontières ni oppression, elle va devenir l'une des plus grandes voix du mouvement pour la paix pendant les années 70 et va même fonder un label, le label Paredon, pour recueillir avec son mari tous les chants révolutionnaires qui lui parviennent du monde entier, constituant l'une des bases de données musicales les plus précieuses de son époque. Bref, il y a vraiment de quoi rendre un hommage appuyé à cette Barbara Dane, grande dame du jazz, du blues, de la folk, révoltée de naissance et toujours passionnante.
Well, I'm going down the track, I got tears in my eyes, trying to read a letter from my home. If this train runs me right, I'll be home by tomorrow night, 'cause I'm 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. This train I ride on is 100 coaches long. Hear the whistle blow 100 miles. Well, if this train run me right, I'll be home by Saturday night, 'cause I'm 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. I will pawn you my chain, pawn you my gold and diamond ring. If this train run me right, I'll be home by tomorrow night, 'cause I'm 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. I hate to hear that lonesome whistle blow. I hate to hear that lonesome whistle.
Why would I want to stand up in front of a bunch of people singing something that I don't even care about the words to?
Pourquoi est-ce que je m'embêterais à me produire sur une scène devant des gens en chantant une chanson pour laquelle je n'ai aucun intérêt, qui ne veut rien dire? Moi, je crois que la musique a un vrai pouvoir qui arrive à unir les gens au-delà des mots, au-delà des cultures, qui leur fait ressentir à quel point ils sont une seule et même espèce, comme nul autre art ou nulle autre idée politique.
I never had
life before. Oh, well, my man has quit me. Child does grieve my mind. Sometimes I feel like living. Sometimes I feel like dying. Well, you know I'm going to lay my head on some lonesome railroad line. I let the 219 train.
Les
critiques disaient de moi que j'étais une rousse corrosive. Moi, je pensais qu'on disait ça parce que je me teignais les cheveux, et c'était vrai. Mais en fait, ils parlaient de ma personnalité, parce que je donnais mon opinion, parce que je parlais beaucoup. En fait, s'exprimer politiquement pour une femme dans les années 50 ou 60, c'était considéré corrosif. Trop de nerfs, trop d'excitation. Cette femme étonnamment blonde, surtout quand on entend cette puissante voix d'alto, on se demande comment cette femme arrive à parler de problèmes avec cette détermination obstinée, cet enthousiasme et cet amour fondamental de l'opprimé qui lui permet en ce moment de se faire un nom. En tout cas, elle est aidée et encouragée par certains des plus vieux noms du jazz et par tous ceux qui ont contribué à donner naissance au blues. C'est comme ça que Barbara Dane, cette espèce de petite débutante, est présentée par le magazine Ebony lorsqu'elle sort son tout premier album, intitulé sobrement Trouble in Mind, dont vous venez d'entendre le titre éponyme. Qui est cette femme et pourquoi est-ce qu'elle trouble à l'époque? Parce que la plupart des gens qui ont entendu son disque à la radio, sont persuadés en réalité qu'elle est noire. On l'appellera d'ailleurs très vite la Bessie Smith blanche, tant tous ceux qui l'écouteront l'apprendront pour cette femme, Bessie Smith, qui a été, disons-le, l'une des plus grandes interprètes du blues. Et pourtant, Barbara Dane est cette sublime et plantureuse blonde, parfois rousse, qui est à la fois une bête de scène, comme vous l'entendez ici, entourée de musiciens noirs, qui peut aussi, et elle le fait dès le début, être cette espèce de femme qui se produit avec une voix d'alto face à une guitare qu'elle maîtrise extrêmement bien, comme vous l'avez entendu dans le 900 Miles qui a ouvert cette émission. Comment cette jeune femme du vingtaine d'années est-elle devenue cette espèce d'anomalie du blues qui, entre la fin des années 50 et le mi-temps des années 60, va non seulement être complètement adoptée par les pionniers du blues, certains très âgés, et par les meilleurs musiciens de jazz, dans lesquels plusieurs membres éminents de la communauté noire américaine vont se reconnaître. C'est pourtant une jeune femme qui est née en Arkansas, dans des États-Unis extrêmement ségrégés, en 1927. Elle emménage assez vite à Détroit, et son père, qui est un pharmacien, ou plutôt quelqu'un qui détient un drugstore, lieu où on achète des médicaments, mais où aussi on peut venir boire un soda, est un joueur de bridge professionnel. Elle est l'aînée de 3 enfants et rien, mais véritablement rien, ne la destinait à devenir ni une musicienne, ni ce qu'elle sera, c'est-à-dire probablement l'une des musiciennes et l'une des artistes tout court les plus engagées du siècle aux États-Unis. Comment expliquer que cette jeune femme, cette jeune fille qui a fait des très bonnes études à Redford High School va devenir non seulement musicienne, mais en plus devenir complètement obsédée par le blues, réussir à s'y faire une place? Probablement tout ce qui explique la trajectoire incroyablement longue, fertile, politisée de cette jeune femme blanche qui s'éteint à 97 ans le 20 octobre 2024, toujours aussi révoltée qu'elle l'était à une vingtaine d'années. Cette explication, on peut la trouver dans un épisode qu'elle va vivre alors qu'elle a même pas 10 ans. Un épisode où son père apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire un Américain raciste. Un épisode qui reste avec elle et qui bouleverse sa vie, qu'elle racontait très âgée, vous allez reconnaître sa petite voix, dans un podcast en 2019. C'était un jour où il faisait très chaud, très humide, et vous savez, à cette époque-là, c'est vraiment étouffant à Détroit. Et il y a cet homme qui entre très humblement dans le drugstore de mon père, qui demande un Coca-Cola, qui met un nickel sur le comptoir, parce que c'est ça que ça coûtait. Je le lui sers, moi je suis une petite fille. Et il n'arrête pas de regarder la porte, parce qu'en fait c'était un homme noir qui venait d'arriver du Sud, et il se retrouve dans cette ville très ségrégée qu'est Détroit à l'époque. Je pense qu'il avait peur, il avait chaud, il avait soif, mais il ne savait pas quoi faire. Et je lui dis, mais non, mais vous en faites pas, monsieur, asseyez-vous. Mais lui, il ne sait pas quoi faire. Moi, je dois avouer que je ne comprenais pas très bien cette scène. Et juste à ce moment-là, mon père, qui était en réalité dans l'autre partie du magasin, dans la réserve de médicaments, il voit ce monsieur. Il surgit et il crie, vous sortez maintenant, vous savez très bien que vous n'avez rien à faire ici. Et il me dit à moi, Barbara, plus jamais tu ne sers un homme noir. Le monsieur a eu très peur, très lentement. Il est sorti, il est allé vers la porte. Et là, mon père a essayé de m'expliquer. Vous criez dessus en me disant, si tu commences à laisser ces gens-là rentrer ici, tout le voisinage va nous détester, mon magasin va faire faillite, parce qu'il ne croit pas que ces gens-là doivent se mélanger à nous.
Ain't no man in Charleston who's a stranger to Big Crown's best. Catfish Row is close tied to the side of this old blue dress. But there is one they call Porgy. Seems like that man understood, got his trust in me, Lord. So I just gotta stick for good. I got a man. I've got Porgy. I understand now. I've got Porgy. I'm through with my ways, 'cause his way is my way forevermore. Lord, when I feel his knowing he can't go on without me,
beg for a chance just to camp by his door. Say he's not much for folks to look and see. Lazy and no account as he can be. But he's got a good kind of love for me. Changing my style and my way of living. Glad I stopped taking and started giving. I've got a man, I've got Porgy now. I've got a man now, I've got Porgy. I understand now, I've got Porgy. I've got a man, I've got Porgy now.
Now, for instance, there's a guy right over there now that's giving you a little beat. Do you dig him?
Who's that? Jesus! Look at you, Jesus! We got one with our band there, you know. Well, along with that, we have a couple of guests there, you know. Barbara Dane's gonna check one, and our boy Bob Hackett gonna take a couple of choruses, and then he's gonna catch that train down there, you know, the Miami Villa Springs, where he's gonna open up there and kill them cats.
Good.
Are you ready?
Ready?
Sing, Gene.
All right.
Barbara Dane à la télévision américaine en compagnie d'un Louis Armstrong qui est très fier de se produire à ses côtés. C'est sa première télévision. Alors que s'est-il passé entre cette petite Barbara Dane qui, enfant, est obligée de chasser un homme noir sur les ordres de son père et cette Barbara Dane de 59 qui se produit à la télévision pour la première fois invitée et entourée de musiciens noirs? Ben, il y a, dit-elle, cette prise de conscience, l'humiliation de cet homme ce jour-là. Je l'ai prise pour moi, elle ne m'a jamais quittée. C'est ainsi que Barbara, dès la fin du lycée d'ailleurs, commence à participer à des manifestations pour l'égalité raciale. Elle va commencer aussi évidemment à chanter, à prendre des cours de bel canto, à s'essayer à la guitare. On retrouve en fait dès la vingtaine une femme d'une curiosité, d'une activité inlassable. Elle va tout d'abord beaucoup se produire avec des groupes dans sa région de Détroit avant, en 49, de s'installer dans la ville où beaucoup de choses vont se passer. J'ai nommé San Francisco, on est en Californie. Et c'est là qu'elle réussit à s'imposer à la fois en développant son petit répertoire folk, elle et sa guitare, et en prenant part de plus en plus à cette tradition incroyable, le revival du jazz, qui voit justement toute une série de jeunes interprètes s'intéresser, réinterpréter, rechercher un répertoire très politique et qu'on regarde complètement différemment depuis cette fin des années 50 qui amorce le mouvement des droits civiques, c'est-à-dire le répertoire des blues women et des bluesmen des années 20-30. Certains sont morts, d'autres en revanche sont toujours en vie. On va les récupérer, on va essayer de les faire jouer sur scène. C'est dans ce contexte en fait que l'espèce de double fame de Barbara Dane s'impose, évidemment. Barbara Dane qui, après justement son premier album, son deuxième album, et cette petite télévision avec un Louis Armstrong qui dira d'elle, vous avez entendu cette fille, elle est absolument épatante, qui continue donc à produire des albums où elle est entourée d'une espèce de clique de musiciens noirs qui sont pour certains les meilleurs de leur génération, qui travaillent avec les plus grands jazzman autour d'elle, Memphis Slim, Willie Dixon, Muddy Waters que vous connaissez bien, la grande chanteuse de gospel Clara Ward, mais aussi également l'un des bassistes de Duke Ellington qui sera son fidèle compagnon dans son répertoire jazzistique, des reprises, des plus grands chanteurs de blues, mais aussi par exemple des gospels, des chants traditionnels de cette tradition dont elle va modifier les paroles pour en retirer un peu l'aspect religieux et concrètement accentuer le rapport politique. C'est le cas par exemple dans ce I'm on my way, qui est normalement une chanson religieuse qu'elle reprend, façon gospel évidemment, mais qui devient une espèce d'hymne à la fois politique, mais aussi, et ça elle ne s'en rend pas tout à fait compte, féministe presque malgré elle. I'm on my way and I won't turn back now. Je suis sur mon chemin et je ne ferai pas marche arrière. Un hymne dont on se rend compte si on regarde les commentaires, par exemple, qui le suivent sur YouTube, qui l'a donné du courage à des gens, à la fois pour entrer en politique, mais aussi à des femmes pour quitter un compagnon qui leur faisait du mal. Barbara Dane, donc, qui dans ses années 50-60, parce qu'elle réussit à produire de très beaux disques et qu'elle passe à la télévision, est principalement connue pour être cette très bonne chanteuse de blues, un blues qui confine, comme vous l'entendez ici, au rock'n'roll à certains endroits. On est vraiment dans cette tradition à la fois gospelesque qui a donné évidemment, par exemple, dans les années qui sont pile à ce moment-là, Little Richards, donc à la fois quelqu'un qui est très très fort pour être accompagné par un groupe, mais une femme aussi qui, en parallèle de tout cela, récolte, dans la pure tradition de ce qu'on fait à l'époque, de plus en plus de chansons folk. Elle va faire, en plus, un troisième métier. Elle va devenir tenancière d'un bar. Car oui, et ça c'est complètement fou quand même, quand on le regarde depuis 2024, en 1960, elle décide de réaliser son grand rêve, ouvrir un nightclub où pourraient se produire à la fois tous ses amis, mais aussi toutes ses idoles, particulièrement ses musiciens, ses musiciennes de blues, dont sa génération se réclame, mais qui sont soit perdus, soit un peu dans la misère, et qui, pour certains, ne s'étaient pas produits depuis des années. Elle va réussir son rêve, et en 1960, elle ouvre son club, le Sugar Hill.
Because here was my dream. It was always to bring...
Vous savez, c'était mon rêve de toute une vie, de réunir tous ces anciens du blues qui, pour certains, n'avaient jamais fait de tournée d'adieu et qui, pour certains, n'avaient jamais fait de tournée tout court. Et je me suis dit, il faut qu'on les voit sur scène avant qu'ils meurent. Dès qu'on a ouvert les portes, on a été débordé par le public parce qu'en fait, les gens attendaient ça depuis longtemps. Puis je pense que mon offre était pas mal, en vrai. Il y a du bon vin, tu vois un très bon show. Et puis personne ne te demande rien, tu peux sortir quand tu veux. Et on était plein tous les soirs. Pourquoi pas ? C'était génial, le Sugar Hill. Et c'est devenu le club préféré de Big Mama Thornton.
When I was a young girl, I used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale straight out of the ale house, then to the jailhouse, straight out of the barroom, down. Papa, come, Mama, sit ye down by me, sit ye down by me, and pity my case, my poor head is aching, sad heart is breaking. My body's salvated, and I'm bound to die. Go send for the preacher to come and pray o'er me. Send for the doctor to bind up my wounds. My poor head is aching, my sad heart is breaking, my body's salvated, and hell is six fair young lady to handle my coffin. Six fair young ladies to bear up my pall, and each of them carrying a bunch of white lilies to lay on my coffin as I pass along.
When I was a young girl, vous l'entendez ici, la Barbara Dane, qui en fait date de la même époque que la chanson que vous venez d'entendre avant. Cette collection, littéralement, cette manière de recueillir des chants folk, c'est une activité que Barbara Dane mène en parallèle de sa carrière de performeuse blues et jazz, en parallèle aussi de sa carrière de tenancière de club. Elle est probablement l'une des seules femmes à être propriétaire d'un nightclub à l'époque où elle le fait. Elle ne se rend même pas compte, d'ailleurs, toute sa vie. Elle le dira si elle a été résistante, engagée, volontariste sur la question du racisme, de l'égalité sociale. Elle ne s'est sans doute pas rendue compte aussi d'à quel point elle incarnait quelque chose de nouveau du point de vue des droits des femmes. En l'occurrence, ça s'entend par exemple dans les titres qu'elle recueille et qu'elle finit par produire au disque. Par exemple, ce When I Was a Young Girl, qui est un chant qui vient des montagnes du sud des États-Unis, qui provient sans doute d'une vieille chanson irlandaise dont on connaît plusieurs versions et où, comme l'écrit Barbara Dane, j'imagine que ça revient, que c'est une chanson chantée par une jeune femme de petite réputation qui est en train de mourir dans son lit et qui repense dans sa tête à toutes les tragédies qu'elle a vécues, mais aussi à la beauté de la vie. Barbara Dane, qui en fait a 3 voire 4 activités, en plus du fait qu'elle est mariée et qu'elle est mère de famille. Barbara Dane, et c'est très intéressant de le lire aujourd'hui de la part des gens qui l'ont évoqué à son décès, qui en fait cumule les activités, les endroits où elle se produit, le type de musique qu'elle engage, ce qui aujourd'hui nous paraît à la fois très naturel, voire parfaitement admissible, mais ce qui à l'époque sans doute contribue à ce que le grand public ne comprenne pas exactement ce qu'elle fait et contribue peut-être au long terme à une forme d'invisibilisation. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vraiment sa carrière de blueswoman qui fleurit, qui lui permet de gagner sa vie, de s'imposer auprès du grand public, notamment avec des albums où elle collabore avec des grandes figures du blues, notamment Lightnin' Hopkins, l'un des plus grands bluesmen de ces années-là, qui vient lui du Texas écouter ce duo de 64, I'm going back baby, back behind the sun.
Well, I'm going back baby now, way behind the sun. Well, I'm going back baby now, way behind the sun. I'm gonna find some honey and I just might give you some. I'm gonna find me one of them sweet good looking men.
Hey, girl.
I'm gonna find me one of them sweet good looking men. Yeah, show all the women just the way to treat their man.
If you women had it did right, wouldn't worry about staying out all night. If you women had it did right, wouldn't have to worry about staying out all night. Even early in the morning, come back just about night. That's too long, bro.
There was a catfish swimming in your sea.
Un duo quand même d'excellente facture entre Lightnin' Hopkins et la belle et incroyable Barbara Baines, qui l'année suivante, 2 années suivantes, en 66, va sortir un album entier avec les Chambers Brothers, qui sont vraiment un groupe très particulier, qui sont célèbres pour avoir été à la fois imprégnés de blues, mais qui ensuite sont devenus un groupe de soul psychédélique, en créant sans doute plus tard le premier morceau psychédélique de soul, Time Has Come Today. C'est en 68, c'est plus tard. 2 ans auparavant. Ils sont donc avec Barbara Dane pour enregistrer un album qui se fait vraiment extrêmement politique, notamment cet incroyable Freedom is a Constant Struggle. Vous allez entendre à la fois la tradition gospel, mais aussi cette espèce de puissance, de rage. On est à la croisée du blues, de la folk, de ce qu'on appelle en fait maintenant, à cette époque-là, les protest songs. C'est à ce moment-là que le tournant politique de la carrière de Barbara Dane va vraiment se jouer, puisque cette même année 66, on va la retrouver à Cuba, la petite île qui fait trembler les États-Unis. Écoutons-la ici, nous chanter avec les Chambers Brothers à quel point la liberté est la plus difficile des quêtes.
They say that freedom is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle.
Est un chagrin constant. La liberté devient la grande question qui anime Barbara Dane. Elle va évidemment participer à la campagne de lutte contre, évidemment, pour l'acquisition des droits civiques et de lutte contre la guerre du Vietnam, puisque elle a, même si c'était pas très long, appartenu au Parti communiste américain. Compliqué comme version, dont elle finit par se faire exclure dès la fin des années 40, en grande partie parce qu'elle n'est pas assez disciplinée. Elle est néanmoins profondément engagée à gauche, profondément anticapitaliste. On va la voir apparaître absolument partout, dans les grandes manifestations à Washington. Elle va faire de grandes tournées aux États-Unis pour essayer de convaincre les fameux John G.I. de ne pas s'engager dans cette guerre à la fois injuste et profondément meurtrière. En 66, elle va marquer l'histoire, finalement, même si les Américains ne se rendent que très peu compte. Elle va devenir la toute première artiste américaine, tout sexe, tout genre confondu, à organiser une tournée dans le Cuba de la post-révolution, le Cuba de Castro, qui, rappelons-le, à l'époque, est l'ennemi absolu des États-Unis. Elle se rappelait de cette période complètement folle qui, symboliquement, a énormément compté dans l'esprit des Cubains. Elle aura d'ailleurs un enfant qui va devenir l'une des figures de la musique cubaine encore aujourd'hui.
I had a whole Saturday night on TV, a concert in the main concert hall, which was televised live.
C'était incroyable. Dès que je suis arrivée à Cuba, on m'a proposé ce concert en prime time, organisé dans une salle de concert. J'ai demandé si je devais enregistrer mon set avec des séquences de 20 minutes. Mais ils m'ont dit, mais non, vous êtes à la télévision, en fait. La télévision publique nous appartient, il n'y a plus de Cooper Pub. C'était incroyable, ce moment-là. Il y avait de la Barbara Bain partout, à la télévision, à la radio. Tout le monde venait voir en fait qui était cette Américaine étrange, cette créature. À la fin de ce concert, j'ai décidé de chanter International. Et j'ai regardé les gens dans le public. Ils ont commencé à chanter avec moi, mais en espagnol. Je pense qu'à ce moment-là, Tant de choses qui étaient importantes dans ma vie ont pris corps. Il y avait quelque chose dans cette chanson. Cette chanson-là, les gens qui étaient en face de moi étaient en train de la vivre, ils l'avaient mis en application. Et ils avaient décidé de mettre leur vie en jeu pour défendre cet idéal.
Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así.
Dans une lettre ouverte parue en 1964 dans le magazine Broadside Magazine, Bob Dylan, qui était devenu en quelques mois le héros de toute une génération de hippies, le leader du mouvement pour la lutte des droits civiques, et aussi du mouvement hippie plus tard, écrit « Les vrais héros de la bataille que nous sommes en train de mener, ce n'est ni moi, ni John Baez, ni le Kingston Trio. Les gens devraient dépenser leur argent pour saluer, aller voir et acheter les disques de gens comme Barbara Dane. Ce sont eux les vrais héros de notre temps. On a besoin de plus de gens aussi gentils et aussi intelligents qui ne pourraient rien faire contre leur conscience et qui, quoi qu'il advienne, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que le monde soit un endroit meilleur. C'est ce que fait Barbara Dane. Barbara Dane qui, en 1970, va fonder avec son mari Erwin Silber un label, alors après avoir été donc une patronne de Night Bar, la première artiste américaine à se produire à Cuba, elle devient donc patronne de maison de disques, les Paredon Records vont publier toute une foule de chansons que vous venez d'écouter ici par exemple. Le label a pour vocation de produire, de donner à entendre toutes les chansons révolutionnaires qui sont produites et chantées dans le monde entier, y compris par des opposants qui ont très peu de moyens d'enregistrement. Ce label va devenir véritablement une pépite, un endroit où l'on pourra retrouver toute une tradition de ce qu'on appelle de chansons de proteste, songs, à la fois aux États-Unis mais aussi ailleurs. Là, vous entendiez David et Goliath, une chanson cubaine qui raconte justement le lien très fort entre les Cubains et les Vietnamiens. Du monde entier vont affluer des enregistrements que Barbara Dane et son mari vont tenter de publier, des chansons émergées d'un Chili qui bientôt vivra sous la dictature, des chansons qui arrivent d'Irlande du Nord, des chansons qui arrivent de Haïti, et évidemment toute une foule de chansons populaires de résistance chantées, enregistrées par ceux qui sont officiellement les grands ennemis des États-Unis, les Vietnamiens.
Yeah.
En ce mois d'octobre, à l'annonce de la mort de Barbara Dane, l'un de ses plus vieux amis, un journaliste américain correspondant à Berlin depuis plus de 50 ans, partageait ses souvenirs de Barbara Dane. Il expliquait comment, la première fois qu'il l'avait rencontrée, c'était cette jeune blonde incendiaire à laquelle il avait tout de suite pensé de manière évidemment érotique et amoureuse. Il s'était retenu parce qu'il admirait et connaissait le mari de Barbara Dane. Il racontait aussi comment, plus tard, il était devenu le traducteur de cette chanteuse folk, cette chanteuse politique venue en tournée en Allemagne. Allemagne, je vous le rappelle, divisée après la Seconde Guerre mondiale entre le bloc de l'Ouest et de l'Est. Comment lui-même n'avait pas fait le rapprochement entre la blonde incendiaire qui chantait du blues et cette femme d'une quarantaine d'années extrêmement politisée qui, à partir des années 68 puis dans les années 70, a fait le tour du monde en chantant des chansons politiques, toujours précédées d'un petit discours qui chantait évidemment des protestants composés par elle, qui reprenait des vieux blues qu'elle réécrivait et qu'elle remettait à la sauce du jour, mais qui aussi interprétait les fameux chants révolutionnaires qu'elle collectait sur son label, Paradon Records. Ces chansons, non seulement elle les donnait à entendre au public, hein, elle permettait à tous les Américains que cela intéressait de pouvoir entendre ce qu'on considère comme les ennemis, la musique comme un pont infranchissable, et puis surtout elle les reprenait pour son propre répertoire de scène. Vous entendiez ici The Town of Uncle Ho, une chanson traditionnelle vietnamienne qui était devenue presque un hymne pour la population vietnamienne, un hymne de résistance. Et ce que raconte cet ami journaliste, c'est qu'un jour, il se retrouve sur scène avec Barbara Dane qui chante façon anglaise une chanson justement vietnamienne et que derrière lui, un groupe de Vietnamiens reconnaît en fait leur propre chanson et que ce groupe de Vietnamiens et Barbara Dane se tombent dans les bras comme une image de ce qui semblait alors impossible, une réconciliation entre les deux mondes. Barbara Dane qui va continuer donc pendant toute cette dizaine d'années à se produire sur scène. Écoutez ici l'une de ses chansons les plus célèbres, Join the GI Movement, rejoignez le mouvement des GI.
I am a GI rebel, as brave as I can be, and I don't like the army brass, and the generals don't like me. Oh, join the GI movement, come and join the GI movement, join the GI movement, join the GI movement. The damnedest situation the army ever saw, was beaten by our officers and framed up by the law. Oh, join the GI movement. We had to sign petitions and put up such a fight just to pass around a paper that contained the Bill of Rights. So join the GI movement, join the GI movement, join the GI movement, come and join the GI movement. If you won't be a killer, if you can't make that great,
Join the GI Movement, Song for the GI Resistance, la résistance des GI. Je vous rappelle que c'est la grande campagne des objecteurs de conscience, un album qui paraît sur son label Paradon l'année suivante. Elle sort un album dont le titre est assez clair. I hate the capitalist system, je déteste le système capitaliste.
The capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough.
Je déteste le système capitaliste et je vais vous dire pourquoi. Il m'a causé beaucoup de souffrance et tué la plupart de mes amis, la tradition folk, mais cette voix blues qui vieillit évidemment, qui est très présente dans cet album de 73. Hein, on est en plein mouvement hippie. Ce qui est fou, c'est qu'en réalité, Barbara Dane va continuer à tourner, continuer à chanter, que contrairement à toute une foule de musiciens de cette période, elle ne va jamais cesser de tenir sa règle, c'est-à-dire elle va continuer à s'autoproduire, continuer à investir du temps, de l'argent dans la publication de chants de gens qu'elle considère faibles, oppressés, qui n'ont pas de relais. Elle sera fidèle toute sa vie et jusqu'en 2024 à un engagement de tous les instants. Son fils, Pablo Menéndez, va décider d'aller à Cuba quand il aura une vingtaine d'années pour apprendre un peu la musique de ce pays. Va découvrir que sa mère est toujours très aimée là-bas. On se rappelle très bien d'elle. Et finalement, va lui rester une cinquantaine d'années là-bas, fonder un groupe Mezcla, qui est sans doute l'un des premiers groupes mixtes américano-cubains qui a toujours promu la paix. Barbara Dane, qui aura donc été une figure des droits civiques, de la lutte antiraciste, de la lutte socialiste, et qui sera, presque même sans l'avoir pensé réellement, une grande féministe. On va se quitter avec une chanson qui n'est pas l'une de ses plus célèbres, car je vous invite vraiment à découvrir la filmographie extrêmement longue de cette femme dont les chansons sont à la fois très pures et extrêmement bien écrites. Working Class Woman, une chanson où elle le dit: je ne suis même pas Joe l'ouvrier, je suis la femme de Joe l'ouvrier. Les femmes sont les dernières des dernières, et on l'espère, elles seront les premières.
Joe working man's wife, that's how I was defined, as if that was my life, my hope and my mind. But I worked in a bake shop, did the housework at night, and there was no time to stop for a young bird in flight. Well, in time there were babies, and I had to make us a home. Joe was working two jobs, and I was always alone. I needed some time and just a little control, just to keep
my mind. Barbara Dane, 1927-2024. On n'avait pas envie de quitter cette année sans rendre un hommage quand même appuyé à cette figure dont on peut vraiment regretter qu'elle ne soit pas plus connue, ni aux États-Unis, alors encore moins en France. Il y a encore bien des choses à faire. Écoutez-la, rendez-lui hommage. Essayez d'écouter à la fois ses albums, les albums qu'elle a produits. Barbara Day, une émission préparée avec le concours très précieux de Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, réalisée par Thomas Jost et mise en onde par Grégory Wallon. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale. Vous y retrouverez tous nos grands portraits ainsi que toutes nos séries. On se retrouve en 2025.
My kids are in high school, and don't you know the boss calls me girl? But the woman beside me, as we sweat out the line, says tomorrow is payday, hey, and the next day is mine. It's a race for the strong, 'cause it'll grind up the meek. When your money runs short, about the end of a week, and your car needs some tires, for a working class woman.
that's an old kind of blues. Now this system buys hands, but you must not use your head. They'll shake you and break you. Till all your senses are dead.
Vous êtes bien sur France Culture.
Avec Philosophie. Cette semaine, portrait d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine.
Géraldine Mosna-Savoie.
Son nom vous fait peut-être penser à celui d'une détective privée britannique et vous n'avez pas tort. Iris Murdoch, à travers ses romans et ses essais, avait une quête, celle de percer le mystère de la vie humaine. Mais comment rendre compte de la diversité de chacun et de nos drames personnels ? Cette semaine, on part en quête d'Iris Murdoch.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Culture Monde s'offre un pas de côté littéraire et demande aux écrivains leur part de vérité sur le monde.
Julie Gacon.
Nous recevrons l'écrivaine irakienne Inam Kashashi, dont le dernier roman croise les destins de deux femmes originaires de Bagdad, le romancier palestinien Karim Khatan, l'écrivain grec Makis Malafekas et Paula.